Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Vous avez vu ça, donc, en fin de semaine, cette grande manifestation, quand même 10 000 personnes opposées aux mesures sanitaires du gouvernement. Bon, évidemment, étant en démocratie, tout le monde a le droit de manifester. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir des gens qui manifestent en disant « on vit dans une tyrannie, puis on vit dans une dictature ». Ouais, mais c'est parce que t'étais en dictature, t'aurais pas le droit de manifester. Ça me semble quand même la base. Mais écoutez, ils ont le droit, évidemment. Ce que je trouve problématique quand il y a des manifestations comme ça, c'est quand, évidemment, les gens ne portent pas le masque, ne respectent pas la distanciation sociale. Ça, c'est une chose. Mais quand les gens font des câlins gratuits, puis se prennent les uns les autres dans les bras, se font des câlins, des mamours, écoutez, je comprends, là, mais je veux dire, ça, c'est de la provocation. Une autre forme de provocation, évidemment, je ne fais pas de lien entre les deux. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que les premières personnes dont je parle sont comme la deuxième personne dont je viens de parler. Mais quand on parle de dérapage, c'est quand même de ça qu'on parle. Le chef du bloc, du Parti québécois, pardon, Pascal Bérubé, qui a mis sur les médias sociaux cette menace qui a été faite contre lui et sa conjointe. Il dit, ben, c'est une drôle de façon de démarrer la semaine. Alors, c'est un prix Nobel là, des médias sociaux. Il s'appelle Top Speed Simula 1. Je sais pas pourquoi les tapons sur Internet ont toujours des noms, des avatars complètement ridicules. Tu sais, en général, c'est Bisoun 24, mais là, non, c'est Top Speed Simula 1. Alors, il est peut-être Top Speed, mais il n'est pas top niveau pour la réflexion. Donc, voici le message qu'il a adressé à Pascal Bérubé et Annie Soleil Proto. Il dit, « Vous et votre conjointe ne pourrez plus marcher dans les rues bientôt. Nous avions confiance en vous, indépendantistes supposément, vendus au mondialisme, un traître à la nation. Voilà ce que vous êtes tous les deux. J'espère... qu'à l'heure qu'il est, Pascal Bérubé a pris toutes les mesures pour qu'on puisse retrouver qui est ce monsieur Top Speed Simula 1 et qu'il ait une petite visite de la police pour lui rappeler les règles élémentaires de vie en démocratie. Quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, tu lui dis, mais il y a des façons de le dire et faire des menaces de s'en prendre physiquement à la personne avec qui t'es pas d'accord. Ben, c'est pas comme ça qu'on fonctionne en démocratie. Top Speed Simula 1, vous êtes un crétin. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Si vous prononcez le nom Jean-Michel Dufaux, évidemment, vous allez tout de suite l'associer au voyage avec son site, évidemment, Siège Hublot, mais aussi ben, toutes les chroniques qu'il a faites, les livres qu'il a écrits, entre autres, sur Toronto. Et c'est pour ça que j'étais intéressée à avoir l'opinion de Jean-Michel, qui est chroniqueur avec nous tous les lundis, au sujet de la reprise dans le domaine du tourisme, parce qu'on sait évidemment, c'est une évidence de le dire, qu'avec la COVID, ben, on voyage plus comme avant, on voyage plus du tout. On découvre le Québec et ses beautés, ou on découvre le Canada et ses beautés, mais comment on fait justement pour faire revivre l'industrie du tourisme? On va en parler avec Jean-Michel. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Sophie, bon lundi.
Écoute, comment on fait quand on est comme toi un amoureux des voyages pour vivre avec cette nouvelle réalité de la COVID qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà des frontières puis qu'il faut troquer Venise contre Venise en Québec?
Exactement. Ben, je pense qu'un des bons, il y a très peu de bons côtés à cette horrible pandémie, mais je pense que ça a quand même forcé les gens à redécouvrir notre belle province et notre pays, mais surtout le Québec. Et je pense que on a découvert des coins. Il y a des coins cet été, on sait, qui ont été très populaires, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. J'ai un autre appel en même temps. Donc, le bon côté de ça, c'est que cet été, on a eu des très bons chiffres au niveau du tourisme du Québec. Par contre, c'est quand même en deçà des chiffres normaux, par exemple, pour les villes de Québec et de Montréal. Montréal souffre énormément. Et c'est aussi au niveau économique vraiment difficile. C'est presque 2 millions de Canadiens qui dépendent de l'industrie du tourisme, qui
travaillent
de près ou de loin.
Ouais.
C'est des chiffres hyper important. Et surtout Montréal, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup les touristes étrangers qui aident Montréal à avoir des statistiques intéressantes, des restaurants. Même les Airbnb qu'on met souvent au banc des accusés. Je suis d'accord, moi, que quelqu'un qui a un Airbnb 12 mois par année doit payer un permis et c'est pas toujours valorisé. Si dans un syndicat de copropriété, on ne veut pas qu'il y en ait un, je comprends très bien. Mais il faut pas juste accuser Airbnb. Airbnb, ça permet quand même, des fois dans des quartiers où les gens ne sont pas là, d'amener des gens de l'argent extérieur.
Ça, c'est un bon point.
Et Oceaga, par exemple, on se vante toujours d'avoir des chiffres extraordinaires pour le festival de musique d'Oceaga au mois d'août, qui tourne à peu près 3 jours. Le pourcentage de ces jeunes qui sont dans les Airbnb est hyper élevé. Donc, on peut pas juste dire on est content de nos chiffres, mais on veut pas savoir où ils dorment. Ça permet à des familles, des fois, à des gens qui ont un peu moins de budget parce que les hôtels du centre-ville sont chers, de voyager. Tout ça pour dire que je ne sais pas comment affronter ça. Et ce qui me fait peur, c'est évidemment cet automne. C'est-à-dire que cet été, avec le climat agréable, les terrasses, tout ça, c'est bon. Mais là, on s'en va vraiment, et ça ne semble pas se régler, on s'en va vers une année hyper difficile. Parce que quand les terrasses vont fermer, là, autant à Montréal, à Québec que dans toute la province et dans le pays à cause de notre climat hivernal, ça va être une catastrophe. Ça va être l'hécatombe. Là, et je ne sais pas comment on va régler ça. Je pense qu'il y a une autre année difficile qui est devant nous. Et ça revient à... il faut qu'on mette de l'énergie, je pense, à au moins savoir. On ne peut pas trouver le remède tout de suite, mais au moins savoir si quelqu'un est porteur ou non. Parce que si des tests se font, par exemple, à l'aéroport, ou tout, si on peut permettre les voyageurs étrangers de venir ici, mais d'être certain qu'ils n'ont pas la COVID, ça permettrait peut-être à l'industrie tranquillement de reprendre des forces. Parce que sinon... C'est tout ce qui connecte aussi à ça, c'est les restaurants, les bars et tout ça. Donc, c'est vraiment une situation très, très difficile. Et là, il reste un mois, je pense, parce qu'après ça, là, aller à l'intérieur, ça va être difficile. Les places sont limitées, les terrasses sont fermées. Alors, c'est vraiment, vraiment une année difficile qui s'annonce là, pour tout le monde qui est de près ou de loin lié au tourisme.
Mais c'est important les chiffres que tu donnes quand tu dis qu'il y a 2 millions de personnes au pays qui dépendent de l'industrie du tourisme, parce que on peut regarder ça en tassant ça du revers de la main en disant « Ah, oh, ben, de toute façon, c'est juste les hôtels puis c'est juste les lieux très touristiques », mais c'est toute la chaîne, c'est tout l'effet domino que ça a sur l'ensemble, sur tout le reste de la population, tout le reste de l'économie. Mais ce que je trouve un peu particulier, c'est qu'il y a des gens de l'industrie du tourisme qui font appel à Ottawa et aux provinces aussi en disant, écoutez, il faut réouvrir de façon sécuritaire parce qu'évidemment, ça représente beaucoup de sous. Et par exemple, ils disent, on devrait faire s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde, avoir des tests de dépistage ou ouvrir des couloirs sécuritaires. OK, moi, je sais pas, là, mais l'idée qu'on réouvre les frontières ou qu'on repermette à des gens de l'extérieur de venir au pays, en particulier des gens des États-Unis, honnêtement, Jean-Michel, ça me fait capoter. Parce que...
Attends, là-dessus, on s'entend. Je suis d'accord avec toi. Moi... On ne peut pas rouvrir, et surtout avec nos voisins du Sud,
ben là,
qui sont des clients importants, mais on ne peut pas. On ne peut pas se permettre ça, et on ne peut pas se permettre ça tant que ce n'est pas réglé, qu'il n'y a pas de vaccin, ou au pire, qu'il n'y a pas de test qui, dans l'heure après, nous dit clairement à 100% la personne a la COVID ou non. Parce que sinon, tu as raison. Là-dessus, on s'entend complètement. On ne peut pas rouvrir les frontières. On ne peut pas. On ne peut pas. On contrôle ça et on regarde ce qui se passe aux États-Unis. On ne veut pas redevenir un autre État américain.
Ben non, c'est pas. Ça. On ne veut pas que les gens qui ont fait le party à Miami, à Bouche que veux-tu, passent frencher sur la plage, que ces gens-là se disent « Hey, on ne peut plus faire le party sur la plage. On s'en va à Montréal aller dans les bars de danseuses puis boire de l'alcool parce que chez eux, l'âge pour consommer de l'alcool, c'est 18 ans, c'est pas 21 ans. » On ne veut pas voir ces gens-là chez nous. Même si le prix économique à payer est très élevé, tu comprends? Moi, je comprends l'industrie du tourisme de dire, ben écoutez, on va tous crever d'un point de vue économique, mais c'est pas mieux si on crève tous parce qu'on meurt tous de la COVID, là?
T'as raison, puis je pense que même au niveau chiffres, au niveau des finances publiques et du fardeau, d'avoir des bébés. Puis même au niveau éthique, moral, etc., d'avoir des gens malades, c'est bien plus grave que de passer à travers une crise économique très dure, mais au moins où les gens sont en santé. Là-dessus, on s'entend. Puis je suis d'accord, c'est pour ça qu'on ne peut pas rouvrir, même avec certains assouplissements, présentement, surtout par notre position. Là, on est dans une situation fragile, on a bien fait ça comparé à nos voisins du Sud, mais c'est loin d'être fini et on ne peut pas rouvrir comme si de rien n'était. Ça, je suis d'accord. Puis même en assouplissant un peu les règlements, là, je pense pas qu'on est prêt de faire ça.
Mais tu vois, tu disais, et avec beaucoup de justesse, que cet été qu'on vient de traverser, par la force des choses, il y a plein de gens qui ont comme découvert le Québec, qui se sont rendus compte que, oui, c'est le fun d'aller en Toscane, mais quand tu vas dans certains coins de l'Estrie, ben il y a des vallées, il y a des endroits, ça n'a rien à envier au plus beau paysage de la Toscane. Tu sais, on est comme redécouvert. Tu sais, c'est comme quand t'es avec ta blonde depuis très longtemps, puis que tu regardes les pitounes passer, ben là, tu peux plus accéder aux pitounes. Fait que tu te rends compte que finalement, ta blonde est belle en mots, t'as dit.
Bon. C'est une belle analogie. D'accord, je pense que... Oui,
mais ce que je voulais dire, c'est que ça s'est passé comme ça cet été. Mais moi, ce que j'imagine, puis je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, Jean-Michel, c'est que il y a un autre problème qu'on a au Québec. C'est que l'hiver, tout le monde part dans le sud et on n'a pas suffisamment, selon moi, développé au Québec le tourisme d'hiver. Toutes les activités qu'on peut faire l'hiver, on n'a pas beaucoup développé ça. Et je me demande si cette année, ça ne va pas être ça la survie de l'industrie du tourisme au Québec, de réinventer, je sais que les gens n'aiment pas ce mot-là, de réinventer des façons de faire du tourisme quand il fait moins 20, moins 30 puis moins 40.
Je pense que c'est la seule façon que ces industries-là vont survivre parce que on sait en hiver, il y a beaucoup de touristes américains, il y a beaucoup de touristes européens, français, il y a beaucoup même de touristes mexicains. On oublie par exemple qu'à Tremblant, il y a beaucoup de Mexicains qui vont à Tremblant. Il faut qu'on redécouvre notre Québec. Il faut aussi, je pense, qu'on améliore certaines infrastructures au niveau dehors des centres urbains. Il y a de très belles choses au Québec, mais il y a amélioration à avoir au niveau des restaurants, des hôtels, des infrastructures, de la facilité d'accès. Et c'est drôle, je sais que c'est un deuxième sujet, mais aussi de l'Internet, je veux dire.
Oui, ben vas-y, ouais.
Hier, j'étais au chalet et puis il y a beaucoup cette discussion depuis peu du gouvernement. Bon, faut se réinventer, faut faire du télétravail, il faut valoriser les régions. Hein? On entend toujours son
vœu. Absolument.
Que les gens restent en région, que les gens ne viennent pas juste dans les centres urbains. Et moi, ça me fait rire parce que moi, je suis un exemple, là, je vais te le dire. Là, je suis à 95 minutes du centre-ville de Montréal. J'ai un modeste chalet dans Lanaudière.
D'accord.
Je suis entouré de trois grandes villes qui sont Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Gabriel-de-Brandon et Louisville. Donc, je suis au milieu de ce triangle-là. Et j'ai un horrible Internet et je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que le seul Internet que je peux avoir, c'est celle du satellite ExploreNet Shaw. Ça me coûte 123 $ par mois.
Ouch.
Seulement l'Internet. Je n'ai droit qu'à 100 gigs. Là, le français et l'anglais, mon download est lent. Mon upload, mon téléchargement pour données est horrible, horrible, horrible. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas faire de Zoom. Je ne peux pas envoyer des fichiers vidéo. Je ne peux pas travailler. Hier, une journée, il pleuvait. Je n'ai même pas d'Internet.
T'es pas sérieux.
Et à cause de la pluie. Oui, et là, on sait le Québec et le Canada, comment on se vante d'être le plus beau pays du monde. On est donc formidable. Et moi, ça me fait capoter que des pays, par exemple, comme la Roumanie, faites vos recherches. Allez voir la Roumanie, là, qui est un pays du bloc de l'Est, des méchants communistes. Et aussi, ce qui met aussi comme, oh, là-bas, il n'y aura jamais l'efficacité de notre monde de l'Ouest parce qu'il n'y a pas de compétition. Hein. Le capitalisme, c'est la compétition et la compétition force le meilleur à sortir du lot, alors que le communisme, c'est pas ça. Ben, je m'excuse, mais faites vos recherches sur Internet et détruit notre Internet canadien.
Ah, oui.
Et c'est vraiment installé. On a installé de la fibre optique, on a fait des politiques gouvernementales pour vraiment faire un réseau. C'est certain que, bon, je me fais un peu l'avocat du diable, le réseau canadien, un des défis, c'est que notre territoire est très, très grand. Mais quand je dis que je suis à 95 minutes et je n'ai pas d'autre accès, je ne peux pas avoir
non, je sais.
Grands fournisseurs, je trouve que le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien, là, justement maintenant, dans ces moments où on se rend compte que l'Internet est important pour le travail et des fois le seul lien pour continuer à travailler à la maison, Je ne comprends pas comment il n'y a pas plus d'énergie à régler ces problèmes. Je parle
mais tout à fait.
8 heures de route au milieu de nulle part.
Je mais non, mais écoute.
95 minutes du centre-ville.
Écoute, je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner un autre exemple qui, celui-là, est relié, en effet, plus directement, disons, au domaine du tourisme. Mais cet été, avec M. Durocher, alias Richard Martineau, on a beaucoup, tu sais, on s'est beaucoup promené. On est allé dans Charlevoix, on est allé dans les Laurentides, on est allé à Québec. Bon, on s'est pas mal promené et à un moment donné, on a loué pendant une semaine un chalet dans les Laurentides. Pour pas le nommer, c'est le chalet d'Adamo, l'ancien d'Occupation Double. Bon, on arrive là, on est super excités, c'est absolument magnifique. Écoute, c'est à La Conception. Écoute, un Internet pourri. Donc, on n'est pas une heure et demie du centre-ville de Montréal, on est à trois quarts d'heure du centre-ville de Montréal. C'est et puis, la nature est magnifique, puis tout ça, incapable de travailler. On pouvait pas, on devait faire une chronique pour Cube Radio. Écoute, il a fallu qu'on branche notre cellulaire, notre Internet sur notre cellulaire, donc sur notre bande passante, parce que l'Internet dans le chalet ne fonctionnait pas. C'était pitoyable. On pouvait rien écouter, on pouvait pas envoyer nos chroniques, on pouvait rien faire. Et donc, je me disais, ben, comment veux-tu deux choses? Comment veux-tu développer le tourisme? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille tout le temps. Tu sais, c'est plus vrai qu'on travaille de 9 à 5, on travaille le soir, on travaille la fin de semaine. Alors, comment veux-tu faire ça? Et comment veux-tu, en effet, encourager le supposé télétravail? Écoute, on n'aurait jamais pu faire un Zoom, là. Mais on n'était pas perdu dans le fond des bois. Et des pays comme, par exemple, moi, ma sœur, chaque année, elle va en Inde parce qu'elle travaille à un projet bénévole là-bas. Écoute, ma sœur est dans le fin fond d'un pays... dans le fin fond d'une province de l'Uttar Pradesh ou je sais pas trop quoi. Écoute, je lui parle, elle m'envoie des trucs, des vidéos par Internet, ça fonctionne comme le tonnerre de Dieu. Mais à La Conception, ça marche pas.
Exactement, tu dis ça parce que je prends toujours l'exemple de l'année dernière où j'ai pris mon année sabbatique et j'étais au Vietnam, j'étais dans des endroits perdus du fin fond du Vietnam, du fin fond de la Thaïlande, des pays qui, si on regarde un peu de haut en disant que c'est des pays tiers-mondistes qui sont en train de s'en sortir, ben, en tout cas, au niveau des technologies, ils nous détruisent. Et comme tu dis, là, La Conception, puis où je suis là, à Saint-Didas, ou Saint-Didas, comme certains disent, on n'est pas loin. Et donc, c'est dans la grande boucle là, de la grande banlieue montréalaise, ça. Je ne comprends pas, ça me fait halluciner qu'il y a
mais moi
pas
aussi.
Plus d'énergie et de volonté politique et de volonté aussi des grands fournisseurs de se mettre ensemble et de dire, regardez, surtout dans l'année qu'on a eue, il faut qu'on règle ça là, d'ici un ou deux ans. Là. Ça, il faut que ça arrête parce que sinon, là, on va arrêter de se vanter d'être si ça. Et comme tu dis, même au niveau du tourisme, maintenant, c'est vraiment un outil indispensable pour rejoindre ta famille, pour faire des recherches. Quand tu te promènes quelque part au Québec, puis tu veux regarder ton Google Maps ou quoi que ce soit, ou des recherches sur les restaurants, t'as besoin d'Internet.
Absolument. Puis écoute, c'est l'éducation.
C'est indispensable.
Pense à l'éducation, absolument, Jean-Michel. Absolument. Là, il y a plein d'enfants qui ne pourront pas aller à l'école parce qu'ils ont la morve au nez, puis ils se font renvoyer à la maison. Donc, supposément qu'ils vont devoir faire l'école à la maison. Eh, bonne chance, les amis. Je dirais, j'imagine, un enfant à Saint-Didas ou un enfant à La Conception, mais bonne chance pour pouvoir suivre les cours sur Internet. Écoute, Jean-Michel, t'es en forme, hein? T'as pris quoi? Toi, t'es un spécialiste du café, t'as pris un espresso extra fort ce matin?
Et pour te parler, comme j'ai pas le choix, ben, je suis à Montréal. Donc, je sais que mes lundis, dans ma
t'es sérieux?
Semaine, je suis à Montréal. Et j'ai pas le choix, mais c'est correct. Parce que dans le fond, ça me permet de faire les deux. Hier, j'étais au chalet, mais je suis rentré hier soir. Donc, au moins, on peut bien se parler. Parce que sinon, tu n'entendrais qu'une voix échevelée et ça serait pénible. Alors, content de te parler.
C'est fou pareil. Que t'es obligé de venir à Montréal pour me parler alors que tu pourrais rester dans le confort de ton chalet. Mais ça en dit long, en effet, sur l'état de notre développement. Puis, c'est un dossier que Michèle Blanc, qu'on salue vraiment, elle en a fait son cheval de bataille. Elle s'arrache les cheveux. Et ce qui est triste dans toute cette histoire-là, c'est qu'elle en avait fait un programme, un plan numérique pour quand elle était candidate au Parti québécois. Et je veux dire, ça aurait été le fun que quelqu'un reprenne la balle au bon. Et de ce côté-là, la CAQ, c'est un petit peu décevant. Merci beaucoup, Jean-Michel. Puis on se retrouve lundi prochain. C'est plate, hein? Tu vas être obligé de venir à Montréal. Obligé de venir à Montréal pour nous parler.
Bon lundi, bonne journée.
Oui, bye merci bye. Jean-Michel.
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Grosse manifestation en fin de semaine. On parle de 10 000 personnes dans les rues de Montréal pour manifester contre les mesures du gouvernement concernant la COVID, des mesures considérées beaucoup trop contraignantes. Et le Journal de Montréal, le Journal de Québec ont fait leur une en disant « ça fait peur » avec une photo de la manifestation. Ben, ça a fait réagir le chroniqueur et animateur Éric Duhaime qui, lui, dit « ben ça fait peur aux peureux ». Il dit « moi, voir des gens descendre dans la rue pour exprimer leur opinion, ça me rassure, on va leur rejoindre tout de suite au téléphone. Bonjour Éric.
Bonjour Sophie.
Éric Duhaime, tu es depuis plusieurs semaines maintenant associé à ce mouvement des gens qui, sans être forcément complotistes, mais en tout cas dénoncent les mesures du gouvernement. Toi, ça te rassure la manifestation qu'il y a eu en fin de semaine?
Bien d'abord, regarde, juste le fait d'utiliser le mot complotiste, là, ça démontre un biais qui est totalement inacceptable actuellement. Puis c'est ça que j'aime pas dans la société québécoise. Aujourd'hui, là, on a les gens qui, on doit tous hocher du bonnet puis dire que ce que le docteur Arruda puis M. Legault fait, c'est parfait. Parce que dès qu'on pose des questions, dès qu'on a un sain scepticisme, dès qu'on s'exprime démocratiquement, on est associé à du complotisme. Ça, là, c'est un amalgame qui est inacceptable. J'ai rappelé à l'ordre Patrick Lagacé dans la presse la semaine passée, puis malheureusement, il y en a plusieurs dans les médias présentement, puis le gouvernement ne se gêne pas pour le faire aussi, puis je trouve pas ça correct.
Mais en même temps, Éric, quand les gens manifestent dans la rue et que sur les affiches, tu vois des trucs comme 5G, des trucs qui sont associés, quand t'entends Lucie Laurier qui participe à des manifestations, qui fait le lien en disant Arruda, c'est pas un vrai scientifique et tout ça, il y a des gens, bien sûr, dans cette cause-là, qui ont des interrogations tout à fait légitimes, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi une minorité, peut-être, de gens qui ont des propos complètement déplacés. Puis c'est à des gens comme toi de tracer la ligne en disant « moi, je refuse d'être associé à ça ».
Rappelle-toi, il y a quelques mois, quand on était plusieurs à appuyer le projet de loi sur la laïcité de l'État du même gouvernement de la CAQ. Oui. Il y en a eu des manifestations, j'ai moi-même participé à des manifestations. Il y avait des gens là-dedans qui étaient des racistes, des islamophobes, n'importe quoi, OK? Oui, il y en avait. Mais c'est drôle, le gouvernement ne les a jamais rappelés à l'ordre, puis on disait pas que les gens qui étaient favorables à la loi 21 étaient des islamophobes puis des racistes. Puis ceux qui l'ont fait, on leur a dit qu'ils faisaient des amalgames, puis c'était des démagogues. Mais c'est la même chose aujourd'hui. On peut pas associer... Il y a des gens qui vont manifester pour toutes sortes de raisons. Puis quand je dis que c'est sain là, que les gens descendent dans la rue, Sophie, écoute-moi bien, là. C'est la première fois dans l'histoire du Québec. Là. Moi, mes ancêtres sont arrivés ici il y a 17 générations. Jamais les droits et libertés des individus ont été aussi brimés que les 6 derniers mois dans l'histoire du Québec.
Mais c'est une exagération, Éric. En quoi ta liberté est brimée? D'ailleurs, la preuve, la manifestation... OK, ben, vas-y, mais explique-moi en quoi ta liberté à toi est brimée.
Jamais en 17 générations, là, on a limité les déplacements de mes ancêtres. Jamais ils ont pas été capables de franchir une frontière. Jamais ils ont pas été capables d'aller visiter de la famille. Jamais on leur a dit qu'il fallait qu'ils baisent avec un masque. Jamais on leur a dit qu'ils pouvaient pas se promener en public sans rentrer dans un espace fermé avec un masque. Jamais on a empêché des enfants d'aller à l'école pendant...
Mais jamais il y a eu de pandémie mondiale?
Mais Sophie, je suis d'accord. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai que nos libertés ont jamais été aussi bafouées qu'elles le sont présentement. Jamais on a été aussi bafoués. Que des gens se posent des questions, que des gens sortent dans la rue puis manifestent leur désaccord, j'appelle pas ça de la peur, j'appelle ça du réalisme, du sain scepticisme. Puis il va falloir que... La solution du gouvernement au Québec là, est pas miraculeuse. Là. Chaque gouvernement fait les choses différemment. Y a personne qui a la recette magique. Et le gouvernement Legault a choisi l'approche qui est, sur le continent, là, on est ceux qui ont été les plus restreints, dont les droits et libertés ont été les plus bafoués. Et pourtant, quand on regarde les résultats en termes de vie humaine, on se rend compte qu'on a le pire bilan.
Oui, mais c'est à cause des CHSLD. C'est à cause des CHSLD parce que...
Le gouvernement a échappé. Les gens qui sont sous sa responsabilité, il a échoué à son devoir. Puis après ça, il enlève les libertés des autres. Eux ont été remarquables. Les Québécois ont été très disciplinés par rapport aux...
ceux qui sont allés dans les karaokés, qui ont contaminé 90 personnes, ils n'ont pas été disciplinés. Les gens dans les bars, les jeunes qui font le party dans leur sous-sol, c'est pas des gens disciplinés. Et le problème que j'ai avec le discours des gens qui sont contre les mesures gouvernementales, c'est qu'on tombe tout de suite dans l'enflure verbale. Alors, on parle de dictature. On dit dit, toi, tu l'as dit toi-même, tu as dit les libertés sont bafouées. Notre oui. liberté est restreinte. On parle de dictature. Puis là, il y a une vidéo qui circule d'une mère, là, de Sainte-Justine, qui dit, j'ai refusé que mon enfant soit testé. Et cette vidéo-là circule et on dit opération génocide. Tu sais, quand on parle de génocide, de dictature et de tyrannie, ça décrit des pays...
C'est évident.
C'est évident, pas une dictature
Sophie,
au
exagéré,
Québec.
C'est bon. Évident que c'est de l'enflure.
Mais pourquoi t'appelles pas les gens à se calmer puis à changer leur vocabulaire? Tu mets de l'huile sur le feu toi-même, Éric?
Non, Sophie, pour le Québec, là, en fonction de notre réalité, nous, on n'a jamais vécu ce que c'était l'URSS en 1972. Là. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire du Québec, jamais un gouvernement ne nous a privé autant de nos libertés.
Mais c'est ça, pour c'est notre bien,
c'est pas une
pour
opinion.
Notre bien, Éric. Ça, tu le reconnais que c'est pour notre bien ou pas?
Ben, ça dépend quelle mesure. Moi, je m'excuse, là, mais quand on est en train de faire subir aux enfants du Québec ce qu'on leur fait subir dans les écoles depuis la rentrée scolaire, je considère pas que c'est pour leur bien.
Éric, tu connais mon fils? Tu connais mon fils de 12 ans, là? Tu le connais très bien. Tu l'as quasiment vu naître. OK? Mon fils, là, il est pas traumatisé, là. Il porte un masque quand il va à l'école. Il se promène dans le corridor. Puis une fois qu'il arrive en classe, il enlève son masque. Puis, je veux dire, c'est ça la réalité.
Il est pas à risque, ton fils, hein. Tu sais que la grippe a 4 à 7 fois plus de chances de le tuer qu'un coronavirus si jamais il l'attrape.
Mais c'est pas, il risque de le donner à sa grand-mère. Il risque de le donner à son père. Il risque de le donner à son voisin.
Protégeons les aînés. Puis c'est ça le problème, c'est qu'on est en train... Ça va être quoi le taux? Je sais pas s'il va avoir à tous les jours, si le journal va faire la une avec le nombre de gens qui vont décrocher au niveau du décrochage scolaire dans les écoles. J'ai reçu des lettres, là, d'ailleurs, je l'ai mis sur ma page Facebook, là, ceux que ça intéresse, vous irez le lire. Là. C'est une maman qui est éducatrice spécialisée qui m'explique comment elle est découragée. Elle a jamais vu ça, des enfants de 11-12 ans être obligés de prendre des antidépresseurs. Elle a jamais vu ça, être obligée d'aller chercher une petite fille qui mange dans les toilettes parce que son groupe d'amis est pas dans sa bulle, qu'on lui permet pas d'être avec ses amis, qu'elle se sent rejetée dans la
bulle. Oui, c'est sûr, c'est plate, Éric. C'est sûr, c'est plate.
On va donner des cas comme ça jusqu'à
demain. Mais oui, mais c'est sûr, mais c'est plate. Sais-tu quoi, Éric? C'est la réalité qui est plate. C'est la pandémie qui nous écœure.
J'ai-tu le droit, Sophie, de poser des questions légitimes par rapport aux enfants sans me faire traiter de tout et non? Puis on a le droit d'avoir un débat démocratique ou s'il faut se crier des noms puis des
bêtises? Ben non, mais on débat en ce moment, Éric, on débat. Puis je pense qu'on le fait de façon respectueuse parce que moi, je t'ai pas traité d'aucun nom. Au contraire, je veux que tu puisses exprimer ton opinion. La seule chose que je trouve problématique, c'est quand je trouve qu'on s'en prend la mauvaise cible, Éric. On est tous en tabarouette contre cette motadine de pandémie-là. C'est contre la pandémie qu'on doit être fâché, pas contre la façon dont un gouvernement raisonnable répond en bon père de famille à cette pandémie-là, avec les moyens qu'il a sous la main. Le fardeau de la preuve est sur tes épaules à toi, c'est à toi de nous prouver. En quoi c'est déraisonnable?
C'est lui qui brime nos libertés, c'est à lui à nous prouver que c'est ça.
OK, Éric, vivre en société, là, c'est un échange, OK? Je suis sûre que tu me comprends quand je dis ça. Vivre en démocratie, c'est un échange. On accepte de restreindre en partie nos libertés pour le bien commun. Par exemple, moi, quand je prends le volant, je porte ma ceinture de sécurité. Pas juste pour me protéger moi-même, mais aussi parce que si jamais j'ai un accident puis que je me retrouve à l'hôpital, il va y avoir des conséquences aussi pour les autres. Si je prends de l'alcool, je ne prends pas le volant parce que je risque de tuer quelqu'un en prenant le volant. Donc, est-ce que je dis « Ah, c'était écœurant, le gouvernement est en train de restreindre ma liberté? » Non, je suis assez intelligente pour me dire « J'accepte de faire des sacrifices pour le bien commun puis pour le bien de mes voisins. » C'est ça que le gouvernement nous demande en ce moment.
Tu viens de sortir l'argument démocratique. Okay? On vit dans une démocratie, il faut prendre ça en considération. Moi, je m'inquiète de l'aspect démocratique actuellement. Quand je vois que, puis là, dépendamment de quelle mesure sanitaire on regarde, là, il y a entre 25 et 60% des Québécois qui sont contre. Bon, je suis pas tout seul là, à me poser des questions sur ce que le gouvernement fait et à trouver que c'est épouvantable ce qu'on fait subir aux enfants du Québec. On est entre 25 et 60%. Il y en a combien sur les 125 qui sont supposés nous représenter à l'Assemblée nationale qui ont le même discours? Zéro. Zéro sur 125. Il y en a combien des chroniqueurs puis des analystes puis des animateurs présentement dans les médias de masse qui ont ce discours-là? Ça aussi, c'est zéro. On a un déficit démocratique et médiatique présentement au Québec, Sophie. Ça m'inquiète aussi.
Okay.
C'est supposé être le reflet de la société, pas être contre la société.
OK, mais ça veut dire s'il y a des gens dans la population qui pensent que la Terre est plate, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des députés à Québec ou à Ottawa qui disent que la Terre est plate?
Donc, se poser des questions puis penser que ce qu'on fait en Ontario puis ailleurs dans le monde, c'est meilleur qu'au Québec. ça, c'est complotiste. Ça fait en sorte que tu nous associes à des gens qui pensent que la Terre est plate. Ben, parce qu'on se pose la question.
Il y a un sondage qui vient de sortir, puis je ne sais pas si tu l'as vu, c'est sur le site de Radio-Canada. Oui. Très intéressant. Parlons-en. Alors, c'est un sondage. Ils ont fait un sondage dans différents pays pour comparer. Donc, ils ont soumis aux gens différentes théories du complot. Alors, par exemple, le coronavirus est associé au 5G. Le coronavirus a été développé par les compagnies pharmaceutiques, etc. Enfin, toutes sortes de théories du complot.
Attends, continue. Il y en a trois autres que ce n'est pas des théories du complot. Là. Il y en a une que c'est le gouvernement nous cache l'information. Je m'excuse, là, mais ça, là, c'est pas une théorie du complot, okay. C'est un fait.
Mais je veux juste...
Le gouvernement cache l'information. C'est normal, il fait des sondages à tous les jours. Est-ce que tu as accès à ça? Le contrat qu'il a signé avec McKinsey pour faire la promotion, est-ce que tu as accès à ça? Tes journalistes, fais les demandes, tu vas te faire dire que tu n'as pas le droit de les avoir.
Oui, mais tu sais, je peux te donner plein d'autres exemples que le gouvernement nous cache des choses. Les libéraux, ils ont refusé quand ils ont donné les 5000 pages de documents concernant We Charity. Il y en a la moitié qui était caviardée. Mais je me lève pas le matin. Bon, ben ça, mais ils le font pas plus dans le cas du coronavirus. Les gouvernements, il y en a qui sont des meilleurs que d'autres. Et en tout cas, je reviens au sondage de Radio-Canada. Donc, on démontre...
Mais attends, les deux autres aussi, dis-le aux gens, là. Les deux autres, c'est de croire ou non que la Chine, là, d'où vient le virus? Est-ce que c'est parti d'un laboratoire à Wuhan ou si c'est parti des pangolins puis des chauves-souris, là? Moi, je ne crois pas le gouvernement communiste chinois, puis le passé nous donne raison parce qu'il a souvent menti. Est-ce que c'est un complot de ne pas croire le gouvernement communiste chinois, Sophie?
Ben, écoute, je suis d'accord que sur ce côté-là, le côté chinois, moi aussi, j'ai des très grands doutes, mais il reste quand même que ce qui ressort de ce sondage-là, c'est que au Canada, on se compare vraiment bien aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense, c'est 34% de la population qui croit à ces théories-là. Au Canada, c'est seulement 17%. Mais il y a quand même des gens... Tu sais, quand tu te promènes, je le sais, parce que sur les médias sociaux, tu es très actif, puis tu fais des vidéos, Éric, et... c'est pas tous des prix Nobel, là, les gens qui commentent.
Sophie, je veux pas t'insulter, mais toi aussi, si je vois ta page, je vais voir qu'il y a des gens qui commentent, c'est pas des prix Nobel.
Je comprends, mais moi, je leur réponds parce que je pense que j'ai une responsabilité. Quand les gens, après mes textes, font des commentaires où il y a des dérapages, tu sais, quand les gens font dans les insultes personnelles, puis tout ça, j'essaye de calmer le jeu. Je suis pas sûre, Éric, et je te dis ça en tout respect, je suis pas sûre que toi, tu veux tant que ça calmer le jeu. Est-ce que tu devrais pas...
Combien j'ai de milliers de personnes qui commentent mes publications tous les jours? Est-ce que tu penses... Je les lis même pas parce que j'en ai trop. J'en ai là une dizaine de milliers par jour. Je ne peux pas. Même si, à moins que j'embauche du monde qui vont faire ça à temps plein. Là.
Mais quand tu vois...
Il n'y a personne sur les réseaux sociaux au Québec qui fait ça.
OK. Quand tu vois dans la manifestation qu'il y a eu en fin de semaine que les gens disaient « câlin gratuit », que les gens se prenaient dans les bras les uns les autres,
c'est sûr...
Non, bon, ben dis-le, s'il te plaît. Je veux t'entendre dire que les gens qui ont ces comportements-là, c'est pas intelligent. Je veux t'entendre dire ça.
Ben c'est pas intelligent. C'est clair qu'il faut avoir des comportements responsables. Mais cela étant, moi, j'ai confiance pas mal plus aux individus, puis j'ai l'impression que les actions du gouvernement... Où justement, où on essaie de dicter aux gens quoi faire plutôt que leur expliquer quoi faire, j'ai l'impression que ça a l'effet contraire. C'est un peu comme quand ma mère m'empêchait de fumer, que je fumais en cachette, puis le jour où elle m'a donné la permission, j'ai arrêté de fumer parce que j'aimais pas ça. Il y a un moment donné, il faut que ça soit aussi que les gens, on fasse confiance à l'intelligence du monde. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple bien concret, là, okay. Sophie. Là. On est en état d'urgence sanitaire présentement au Québec, là, ça fait 6 mois. En Alberta, que j'ai visité il y a 2 semaines, là, depuis le début du mois de juin, ça fait 3 mois qu'ils ont arrêté l'urgence sanitaire. Là, tu vas me dire, c'est pas grave, c'est juste un mot puis ça change rien. Je m'excuse, là, mais l'urgence sanitaire, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait à l'économie quand on a fait le confinement, on a mis ça sur pause. L'urgence sanitaire, c'est mettre la démocratie sur pause. Au Québec, là, le gouvernement peut faire ce qu'il veut présentement. Il peut donner des contrats sans appel d'offres. Il peut adopter n'importe quelle mesure sans même avoir de débat, sans même consulter les députés.
Oui, mais en Alberta, ils ont levé l'état d'urgence parce qu'ils n'ont pas eu 5 600 morts comme on en a eu au Québec. Donc, c'est un petit peu normal.
On a un mort par jour en moyenne, moins d'un mort par jour en moyenne depuis des semaines.
Oui, mais pourquoi, Éric? OK, là, c'est là que ça n'a pas de sens, ton histoire. Parce que toi, tu dis, parce que je l'ai vu, là, tes différentes entrées que tu as faites au cours des derniers jours sur les médias sociaux, tu dis, là, il y a plus de morts, c'est vraiment, on a réussi, finalement, tu es quasiment en train de dire que la pandémie est terminée. Il y a 3 personnes seulement aux soins intensifs. Mais pourquoi, Éric? Parce que, justement, on a pris ces mesures-là. C'est ça la logique. C'est comme si tu disais, ça va bien maintenant.
En Suède aussi, les chiffres vont de la même façon, puis ils n'ont jamais eu de masque obligatoire, il n'y a jamais eu de confinement.
Écoute, la Suède est un très mauvais exemple, Éric, parce que Suède... Non, mais honnêtement, la Suède, là, on a des informations complètement contradictoires. Il y a des gens qui disent, ils ont fait la bonne affaire, il y a des gens qui disent, c'est le pire endroit. C'est très difficile de se faire une tête sur ce qui s'est passé en Suède, parce que les informations, écoute, les journalistes, les gouvernements, les analystes, les scientifiques se contredisent tout le temps au sujet de la Suède.
Oui, mais
honnêtement, c'est difficile de se faire une tête.
Ici aussi, c'est la même chose, Sophie. Ici aussi, c'est la même chose. Il y a des gens comme toi qui pensent que le gouvernement Legault a bien fait, même si le bilan est catastrophique. Puis il y a des gens comme moi qui trouvent que non, il n'a pas bien fait.
Non, parce que moi, je trouve que le gouvernement Legault, par exemple, Arruda, docteur Arruda, et je l'ai écrit à plusieurs reprises, je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'aurait jamais dû tergiverser sur le masque. Soit, et tu ne peux pas passer de dire aux gens, ne portez pas le masque parce que ça vous donne une fausse sécurité, à porter le masque, puis si vous ne le portez pas, on va vous donner des amendes. Je trouve que c'est le gouvernement Legault a fait de nombreuses erreurs. Je trouve que le gouvernement Legault, quand il faisait ses points de presse de 1 heure, qui nous disait quelque chose et que la réalité sur le terrain, c'était exactement le contraire. Je pense que le gouvernement Legault s'est ridiculisé. Je pense qu'il y a beaucoup de reproches à faire au gouvernement Legault et je pense qu'il y a beaucoup de questions légitimes à se poser. Là, c'est là-dessus qu'on se rejoint, toi et moi. Ce que je trouve dangereux, c'est quand je vois 10 000 personnes dans la rue qui se frenchent, qui se prennent dans les bras, qui se disent, qui font zéro distanciation sociale, parce que moi, je me dis, dans les prochains jours, il y a des gens qui vont se retrouver à l'hôpital, qui vont engorger le système de santé parce qu'ils trouvent ça important d'aller manifester dans la rue en se frenchant.
Je t'amène le 31 mai dernier, il y a eu le même nombre de gens qui sont descendus dans la rue. Cette fois-là, c'était pas une manifestation pacifique comme samedi, c'était une manifestation violente de Black Lives Matter.
Et j'ai été la première à dénoncer le fait qu'il y avait zéro distanciation sociale.
Cette journée-là, au Québec, il y avait 37 morts de la COVID. La journée qu'ils ont fait la manif samedi, les gens contre le masque obligatoire, il y en avait zéro. Okay? On est dans une situation qui est beaucoup moins grave. Et pourtant, le journal n'aurait jamais titré le 1er juin au matin « Ça fait peur ».
Non, mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Oui,
parce
mais tu sais pourquoi?
La différence, c'est qu'il y en a une qui est à gauche, l'autre est à droite. Verger, c'est à droite, c'est facile. Mais
non, c'est pas ça. C'est que quand tu manifestes contre le racisme, si tu dénonces ça, si tu dénonces quoi que ce soit, tu vas toi-même te faire traiter de raciste. C'est ça, la situation. C'est ça, mais j'ai été...
Quand tu dénonces le masque obligatoire, tu te fais traiter de complotiste. C'est ça. C'est ça, l'amalgame qui est malsain présentement. C'est exactement la même chose, Sophie. On peut plus avoir de débat sans automatiquement se faire insulter parce qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement.
Ben moi, je te le dis, dans tout ce débat-là, les insultes, les accusations, j'aimerais qu'on s'en débarrasse. Et il y a Jérôme Blanchet-Gravel qui a écrit quelque chose sur Internet en disant, si les gens qui sont contre le masque pouvaient arrêter de parler de dictature et de génocide et de tyrannie, ce serait bien. Et si les gens qui sont de l'autre bord, qui sont en faveur des mesures sanitaires, pouvaient arrêter de les traiter de complotistes, ça irait bien aussi. Donc, je pense que des deux côtés, il faut que tout le monde aille prendre une petite tisane bio équitable, que le ton baisse, que l'enflure verbale diminue et qu'on se concentre sur un objectif commun qui est quoi? On veut pas que les gens meurent, on veut pas que les gens tombent malades. C'est une saloperie, cette pandémie-là. Et je pense qu'il faut continuer de poser des questions légitimes. Mais quand je vois des gens qui se prennent dans les bras dans une manifestation et qui courent le risque de se transmettre le virus, je trouve ça niaiseux et je pense que j'ai encore le droit de le dire.
C'est délibérément provocateur de toute évidence. Mais en même temps, Sophie, là, moi, j'aimerais ça. Tu sais, quand le premier ministre prend des décisions par rapport au coronavirus, il doit le prendre dans l'intérêt de la population. On l'a élu pour ça.
Ouais.
Moi, j'ai l'impression que depuis 6 mois, c'est beaucoup la direction de santé publique puis le docteur Arruda qui prennent les décisions. Le docteur Arruda, là, moi, j'ai jamais voté pour lui. Toi non plus, puis personne qui nous écoute n'a jamais voté pour lui. Le premier ministre, oui, il faut qu'il l'écoute. Oui, il faut qu'il lise que les recommandations qu'il a à faire, mais il doit aussi prendre en considération le bien-être de l'ensemble de la société québécoise. Puis il n'y a pas juste les personnes qui sont atteintes de coronavirus qui souffrent depuis 6 mois. Il y a un paquet de monde. Il y a des enfants qui, leur rentrée scolaire a été scrappée, qui ont de la difficulté. Il y a des gens qui ont fait faillite. Il y a des gens qui ont perdu leur job. Il y a des gens qui font des dépressions. Ça aussi, il faut qu'ils prennent ça en compte. Puis quand ils prennent une décision, il ne faut pas qu'elle soit uniquement en fonction de ce qui se passe avec la COVID, mais il faut que ça soit dans l'intérêt collectif. C'est pour ça qu'il a été élu. C'est pour ça que le docteur Arruda n'est pas notre premier ministre. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'au Québec, ça ne s'est pas fait.
Mais quand on parle...
Il a pris ses clés de char, puis il les a donné à Horacio Arruda, puis il a conduit le Québec.
Oui, mais non, c'est un petit peu exagéré comme comparaison, mais quand tu dis l'intérêt collectif, je pense que en effet, il y a beaucoup de gens qui devraient penser beaucoup plus à l'intérêt collectif, comme par exemple les gens qui s'en vont se frencher dans des manifestations en criant « liberté ». Écoute, Éric, à la prochaine chicane.
À la prochaine chicane, Sophie.
Éric Duhem, animateur, chroniqueur et analyste. En retour donc sur ces manifestations. Cette manifestation qui a vraiment beaucoup fait jaser en fin de semaine. 10 000 personnes contre le port du masque obligatoire.
Sophie Durocher.
Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio.
On connaît Maître Anne-France Goldwater pour son franc-parler. Elle est avocate au cabinet Goldwater Dubé. Et justement, ce franc-parler, ben, on l'a lu en fin de semaine. Elle a publié un texte qui s'intitule « Le Québec se fait-il déjouer par la COVID-19 ». Maître Goldwater, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Ben moi, je vais très bien. Écoutez, je trouve très intéressant la réflexion que vous avez publiée en fin de semaine. D'entrée de jeu, vous nous dites que dans votre famille, dans la famille Goldwater, on s'est réunis et vous avez pris tous ensemble la décision de scolariser à la maison vos deux petites filles. Pourquoi, Maître Goldwater?
Ben en effet, au début de l'été, le gouvernement Legault, pour qui je n'avais que des éloges à l'époque. Imaginez, moi, j'étais élogieuse à l'égard de M. Legault. Mais pour ça, j'ai pas d'amertume. Si je respecte un dirigeant, je vais le respecter, même si j'ai pas voté pour. Et je lui ai donné vraiment lui, Dr. Arruda, Mme McCann, A+, pour leurs efforts, même s'il y avait quelques erreurs. On faisait face à l'inconnu, quoi. Hein? Mm-hmm. Alors, la promesse au début de l'été, s'ils étaient pour s'organiser, est-ce qu'il y a des petites bulles dans chaque classe, c'est-à-dire il n'y aurait pas plus de 6 élèves ou 8 élèves, c'est ça qui était discuté dans une classe. La récréation dans la classe, on mange là, on se déplace pas, et les enseignants pourraient aller de classe en classe, mais bien entendu, portant un masque. Mm-hmm. Mais tout ça, je ne sais pas pourquoi ces promesses ou discussions se sont effritées, et nous sommes arrivés à l'automne avec l'annonce qu'il n'y aurait pas de changement. Qu'en effet, premièrement, pour les enfants de moins de 10 ans, il n'y aurait pas la porte de masque. Il y aurait des classes de 22, 24, 26 enfants, comme d'habitude. Et j'en revenais pas. On a plein d'espaces vides en ville et à l'extérieur encore plus, mais c'est plus un problème plus percutant en ville, quoi. On aurait pu avoir utilisé d'autres espaces disponibles pour éviter qu'il y ait autant d'élèves dans une salle. Mmh. Et on n'a pas fait. Et certes, on a le problème qu'il y a énormément d'enseignants qui ont refusé de revenir au travail ou qui ont repris une retraite précoce parce que pourquoi mourir pour une extra année ou deux de service, eh?
En effet.
Alors, et là, j'ai dit, premièrement, nous habitons dans un grand logement ensemble. C'est mon mari qui a creusé le sous-sol pour que ma fille, mon beau-fils et mes petites filles vivent là. Alors, c'est super bien. Ma fille est venue me voir avec des gros yeux au milieu de la pandémie pour dire combien elle est reconnaissante qu'elle n'avait plus à rester dans un appart avec 2 enfants qui courent à gauche et à droite. Et j'étais contente et fière de mon rôle de grand-maman. Mais là, on a eu la discussion sérieuse parce que, comme dans toute famille, il y a des opinions variées. Certains pensaient, je dirais pas qui, que c'est pas si grave que ça, c'est juste comme une rhume, une grippe, tout le monde a eu ça, bla, bla, bla.
Sûrement pas vous, c'est sûrement pas vous qui pensez ça.
Il n'y a certainement pas moi. Et puis, nous sommes tous en santé, il n'y a personne qui fume, on prend soin de nous-mêmes. Mais c'est un virus inconnu. Écoutez, ils viennent de faire une étude aux États-Unis parmi des athlètes dans les universités qui ont eu le COVID sans symptômes, sans être hospitalisés. Et puis, il y a 15% parmi eux qui ont des séquelles encore, l'inflammation du cœur.
Oui, non, c'est énorme. Mais
c'est ça. Alors, on a pris la décision. On a dit, bon, on va les enseigner. On va trouver une autre façon d'éduquer nos petites filles, mes petites filles.
D'accord. Mais ce qui est intéressant, Maître Goldwater, c'est que vous auriez pu simplement prendre cette décision-là et garder ça pour vous. Mais vous avez voulu partager ça et aller sur la place publique parce que vous allez quand même plus loin. Vous dites même que ça vous empêche de dormir la nuit et vous dites comment on fait pour renvoyer des enfants dans les salles de classe sans avoir de plan. Vous dites les enfants québécois sont devenus les participants involontaires à une expérience à haut risque. Est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement Legault est inconséquent ou agit de la mauvaise façon en rouvrant les écoles comme il le fait?
Et pour moi, il n'y a pas l'ombre de doute. C'est une très grave erreur. Je regrette, nos enfants n'ont pas à jouer un rôle sans le consentement de cobayes dans cette grande expérience sociale de dire, ben, combien est-ce qu'on peut mourir et combien vont survivre. Je regrette, c'est inacceptable. Je suis actuellement dans le bureau de mon médecin parce que il a rouvert ses portes pour faire les examens annuels et il est habillé, lui, comme un astronaute. Je ne sais pas comment les gens sont inconscients à quel point il y a des gens qui tombent gravement malades et meurent. Et moi, j'ai pas intention de voir mes petites filles victimes de la chose ou pire encore, qu'ils le transmettent à quelqu'un. Mon ex-mari, qui a maintenant 75 ans, il vient nous visiter ce vendredi. Lui et sa femme, ils vont rester dans ma maison. Je le mentionne juste parce que étant un avocat qui fait le divorce, je veux toujours montrer qu'on peut donner.
On peut bien s'entendre avec son ex. C'est bon.
Mais non. Alors, il vient rester chez nous. On a les bras grands ouverts pour lui et sa femme. Et je ne voudrais pas que mes petites apportent un virus à la maison qui pourrait tuer mon ex. J'ai promis depuis longtemps à mes enfants, j'avais pris un engagement de ne jamais tuer leur père. On l'a dit à la blague il y a 20 ans ou 30 ans à peu près. Mais ce n'est pas une blague aujourd'hui.
Mais
je dois assurer, j'ai une responsabilité, pas juste pour moi-même et mon mari, mais mes proches, mes voisins, mes cousins, mes clients. Les clients viennent au bureau, ils doivent porter un masque.
J'espère. Mais c'est intéressant que je fasse une entrevue avec vous maintenant, Maître Goldwater, parce qu'il y a quelques minutes seulement, je parlais avec Éric Duhaime, le chroniqueur, animateur, bien connu, assez controversé, qui lui disait exactement le contraire de vous. Lui, ce qu'il dit, c'est les mesures dans les écoles sont beaucoup trop contraignantes, on force les enfants à porter le masque, c'est terrible, on est en train de brimer la liberté et de bafouer la liberté des enfants, c'est terrible, c'est horrible. Donc lui, il trouvait que c'était trop contraignant dans les écoles. Vous dites le contraire. Vous dites il n'y a pas assez de mesures. Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire pour que vous acceptiez d'envoyer vos deux petites filles à l'école québécoise?
Mais la première chose, ils auraient dû offrir à grande échelle l'éducation à distance. Parce qu'il y a quand même des familles où il y a des membres de la famille à la maison, que ce soit Pitou ou Minou, ou des grands-parents, ou qui sait, la tante Jeanne, qui peuvent rester à la maison avec les enfants. C'est pas tout le monde. Il faut vraiment être chanceux dans la vie. Mais ça sert à une opportunité d'avoir moins de monde aux écoles. Ils auraient dû utiliser d'autres édifices devenus disponibles. Il y a plein d'hôtels qui ont presque personne là. On aurait pu louer leur salle de conférence, différentes salles de conférence pour installer des enfants là. Il aurait fallu réorganiser l'horaire. Avoir un horaire les matins pour tels enfants, les A à M et les N à Z les après-midi. Il y avait mille et une façons. Vous savez, dans un pays pas très riche comme la Colombie, ils ont réussi, du jour au lendemain, à avoir tous leurs élèves fonctionnant avec l'enseignement à distance. Et c'était un grand défi, parce que certes, il en reste un nombre qui n'ont pas accès à un ordinateur. Ça a pris un investissement gouvernemental. Est-ce qu'ils ont surmonté tout ce défi? Ça, je ne sais pas. Mais au moins, ils étaient prêts avec un plan. Et comme ça, on aurait pu réduire le nombre d'enfants qui auraient dû être présents en classe. Et je dis ceci à Éric Duhaime. Moi aussi, j'ai toujours été une folle pour ma liberté. Tout le monde le dit. On aimerait qu'en France, apprennent aussi quelques contraintes. On le dit sans blague, mais non.
Oui.
Alors, moi, j'ai toujours été une amateur de vélo. Et quand c'est devenu populaire de porter un masque, je disais, là, ça brille ma liberté.
Un casque, oui.
J'étais un peu plus jeune, là. Jusqu'au 1er octobre 1993, que je n'avais jamais oublié, que je suis tombée, je commence à trembler en vous racontant. Je suis tombée de mon vélo en plein centre-ville. De grâce, personne ne m'a frappée. J'ai cogné mes côtes, j'ai cogné ma tête et j'ai dit, espèce d'idiot, j'ai dit à moi-même, j'ai dit, vraiment, tu es tombé de ta chaise et là, tombé ton vélo, de refuser de porter un casque. Il n'y a personne d'autre que toi qui aurait pu être mort dans cet accident. Et depuis ce jour, je porte un casque presque en marchant dans ma maison. Alors, là, j'ai appris ma leçon. Mais vous savez, les gens ont cette erreur de penser qu'ils ne peuvent pas tomber malades, qu'ils ne peuvent pas mourir.
Oui, ça arrivera aux autres, mais pas à moi.
Planète, ben, mais qu'ils fassent un tour de soins intensifs, là où il y a des gens mourants, avec des ventilateurs qui ne vont rien les aider, qu'ils commencent à lire. Il y a une étude publiée récemment aux États-Unis chez des athlètes dans les universités qui ont eu le COVID. Personne n'est tombé gravement malade, mais 15%
oui.
ont une inflammation de leur cœur qui persiste et que ça risque, le recherchiste a dit, c'est d'ici 10 ans qu'on va commencer à voir les vraies séquelles lorsqu'on va vivre un nombre grandissant de crises cardiaques pour tous les cœurs qui ont été endommagés pendant la pandémie.
Oui.
Alors, c'est des gens qui jouent avec le feu.
Qui jouent avec le feu, c'est ça. Vous avez des mots pas très tendres, en effet, pour les gens qui sont contre ces mesures sanitaires. Et vous avez des mots pas très tendres non plus pour Christian Dubé, le ministre de la Santé. Vous avez semblé dire que c'est pas la meilleure personne pour la job. Pourquoi, Maître Goldwater?
Daniel McCann a un curriculum vitae impressionnant. Tout le monde peut aller le lire. Au nombre d'institutions, là où il a travaillé avec des professionnels de la santé, d'organiser entre différents départements, de différents professionnels en santé pour traiter des questions de santé publique, la santé dans les hôpitaux, etc. Ça, c'est sa vie. Alors, quand elle prononce un commentaire, elle a quelque chose à dire sur la santé publique, mon Dieu, je vais l'écouter. D'accord? Et je suis sûre, elle ferait la même chose si elle avait besoin d'une opinion de droit. Mm-hmm. Elle poserait la question à moi, pas à Christian Dubé. Mais là, on a mis un économiste dans ce poste. Et là, j'étais déçue, après avoir été surpris positivement par M. Legault, et je l'ai dit sur la place publique, alors j'ai tenu ma parole d'être honorable envers lui. Et là, il a joué la carte Trump. Au lieu d'écouter les scientifiques, on va mettre un économiste. Quelle est la pression qui est sur l'économiste? Ouvrir l'économie, peu importe les conséquences. C'est l'argent, l'argent, l'argent. C'est la vie transactionnelle. Moi, là, je sacrifie mon stand. Et si vous pensez que c'est facile d'organiser l'éducation de mes petites filles comme ça, et c'est au bureau, de surcroît, même pas à la maison, au bureau, dans une salle fermée, masque et tout ce que vous voudrez, Là, j'oublie mon standard de vie cette année. Mon argent va aller là pour assurer que mes enfants, mes petites filles soient éduquées en toute sécurité et qu'ils aient une qualité, une bonne calibre d'éducation en français et en anglais. Ils vont avoir un programme complémentaire bilingue et c'est comme ça que j'assure et la santé physique et la santé mentale de mes enfants, mes petites filles, et je les forme pour être des bons citoyens pour l'avenir. Pas juste en pensant à l'argent d'aujourd'hui ou demain.
Ouais. Donc, vous êtes prêt. Vous êtes prête à prendre.
Que mes enfants, là, soient des citoyens contribuant à la société québécoise.
Maître Goldwater, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Et qu'écoutez, tout le monde écoute les consignes.
Oui, c'est ça. Tout le monde le masse, on se lave les mains, on tousse dans le coude, puis on se tient à 2 mètres de distance. Maître Goldwater, merci beaucoup.
Merci, Sophie, pour l'opportunité.
C'est un plaisir. Merci, Maître Anne-France Goldwater. Ben, vous la connaissez, hein, évidemment. Très controversée, elle aussi, parfois, comme Éric Duhaime. Décidément, c'était une émission consacrée aux grandes gueules, mais je le dis, évidemment, dans le sens positif du terme, puisque j'en suis une moi-même. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour écouter l'émission. J'aurais remercié Samuel Boulay-Grimard à la réalisation, la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. On se retrouve demain. Bye-bye.
Cube Radio.